Ce qui était vraiment dur, c'est de ne pas voir le jour, de se lever le matin et de ne pas voir le soleil qui rentre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était très dur. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Si j'imagine le visage de ma compagne, je le vois là devant mes yeux. Mais on va dire que ce n'est pas aussi clair qu'avant. Je déteste quand il n'y a pas de bruit. Ça me stresse, c'est limite angoissant.
Aller de l'avant, toujours, en podcast de Charlotte Muller.
Je m'appelle Tara Festali, j'ai 28 ans et je suis aveugle depuis à peu près 3 ans. C'est une maladie très rare, ils ne savent pas d'où ça vient ni comment la soigner. Ils ne connaissent même pas le nom de la maladie. Ça a commencé par des rougeurs au niveau des yeux à l'âge de 5 ans. Et puis ça a commencé à diminuer petit à petit jusqu'à l'âge de 13 ans. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti une baisse de la vue assez conséquente.
Message 42 mes conversations.
Sur mon portable, j'ai une synthèse vocale. Heureusement que ça existe parce que ça m'a beaucoup, mais vraiment aidé hein, de continuer à utiliser le téléphone comme quelqu'un de lambda. Là, je suis sur mail. Voilà, je peux tout faire avec mon téléphone. Ma mère, elle a fait le tour de. Parce que moi, je suis d'origine marocaine. Elle a fait le tour de tout le Maroc. Elle n'était pas satisfaite des réponses que les médecins lui apportaient. Du coup, il a fait une tentative ultime de venir en France, comme elle avait une certaine réputation au niveau des médecins. Les réponses qu'il a eues, c'était pas mieux que là-bas, mais c'était beaucoup plus intéressé par mon cas. Et il faisait vraiment des recherches, il se renseignait partout. Vers l'âge de 15-16 ans, je voyais pratiquement plus rien à part un voile blanc. Et c'est là, les médecins, ils ont fait le tout pour le tout. Ils m'ont opéré 3 fois et ça a donné quelque chose de... Pour eux, c'était un peu un miracle que je retrouve autant de vue. Je commençais à revoir très bien et jusqu'à l'âge de 25 ans. Et là, ça a commencé à se dégrader très rapidement. La voix, pour moi, ça dit beaucoup de choses. Hein. Je peux me faire une image pas toujours bonne, hein. Mais je peux dire si cette personne, elle est sérieuse, pas sérieuse, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est réservée. Voilà, c'est des choses que je peux avoir avec la voix. Ça s'est passé pendant les grandes vacances, j'étais au Maroc. Au bout d'un mois, je commençais à voir un peu flou. Je me suis dit, c'est pas grave, je finis mes vacances et j'irai à l'hôpital, ils me font une espèce des injections. Et en fait, c'est ça qui était traître, c'est que je croyais que c'était de l'inflammation. Mais en fait, non, en revenant en France, ils m'ont mesuré la pression des yeux et c'est là qu'ils ont trouvé 54 à cause d'un glaucome. Un glaucome, en fait, c'est la pression des oculaires qui augmente. En fait, une pression normale, elle est comprise entre 12 et 16. Moi, ça a augmenté jusqu'à 54. Du coup, j'ai perdu la vue. Même pas un mois. Et actuellement, je vois plus rien du tout. J'étais en train de faire une licence de sociologie. Au début, je voulais y aller quand même. Mais après, finalement, j'ai réalisé avec tout ce qui m'arrivait d'un seul coup que je pouvais pas vraiment. C'était trop tôt pour reprendre une vie active.
Mais je me suis trompé, nous on devait aller à près de l'église.
Eh bien oui.
J'ai fait n'importe quoi.
Oui, je sais.
Je me suis jamais dit, merde, j'ai perdu la vue, je pourrais plus faire à manger. C'était plus à l'extérieur, surtout au niveau des déplacements. De ne pas pouvoir se déplacer quand je voulais, à l'heure que je voulais. C'était toujours dépendant de quelqu'un. Toujours. C'était ça le pire. Surtout moi, à la base, j'aime pas demander de l'aide. Du coup, quand je demande à l'aide, c'était plus ma compagne.
Je sais que les gens ne font pas forcément attention les uns aux autres. Je vois comment, par exemple, les automobilistes se conduisent. Ça m'arrivait d'arriver à un passage piéton et de moi-même me dire non, je ne vais pas traverser parce que de loin, je vois que la personne est sur son téléphone. Une fois, moi, je le récupérais juste sur le quai du tram. Et il y avait beaucoup de personnes autour de lui. Et en fait, il n'était pas face à la porte. Du coup, il cherchait la porte, mais personne n'est intervenu. C'est moi qui suis rentrée dans le tram pour l'emmener au chemin de la porte et ressortir. Moi, c'est plus le comportement des autres qui m'angoisse plus que lui.
Moi, depuis toujours, je savais que j'allais finir aveugle. Mais je ne me suis jamais dit que j'allais devenir aveugle si tôt. Je croyais que vers 40 ou 50 ans. Au début, je me suis dit que j'ai perdu la vue. Et puis voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Je vais continuer ma vie comme je l'ai toujours vécu en adaptant bien sûr les choses. Je pense que je l'ai accepté trop tôt. J'aurais dû peut-être temps de faire le deuil. Ce qui est bizarre, c'est que pendant un long moment, je croyais que je voyais encore, alors qu'en fait, je ne voyais plus rien du tout. J'étais peut-être dans le déni. Quelques mois plus tard, les premiers symptômes commencent à apparaître, des crises d'angoisse, le cœur qui bat très fort, l'impression que je vais tomber dans les pommes, que je vais mourir. Le soir, je dormais à peine 2-3 heures et je me réveillais en pleine nuit, j'arrivais plus à dormir. On sort beaucoup de ses oreilles, on fait attention au bruit, aux voitures, leur sens, d'où ça vient, pour repérer les carrefours. On écoute, mais on a l'analyse en même temps. Quand il y a du béton, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Là, je le ressens au niveau de mon corps, je sais pas, comme si il y a quelque chose qui m'a tiré vers ce vide-là. Du coup, je me sers de ça d'ailleurs quand je marche, pour savoir quand est-ce qu'il faut que je tourne. Par exemple, si je dois tourner deux rues plus loin, bah, dès que je ressens le premier vide, le deuxième vide, là, je tourne. Mais il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez lourd, hein, du béton, quoi. C'est un arbre. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à le sentir, mais moi, non.
Oxford, au pied. Et au pied, ici.
J'ai fait des cours de locomotion pour apprendre à manier la canne. Et là, bien sûr, avec Oxford, mon chien guide, ça va beaucoup mieux. On va dire que je ne suis pas 100% indépendant, mais je commence à être indépendant pour sortir. Là, je peux aller tout seul à la pharmacie, à la boulangerie, à mes loisirs. Donc là, je lui demande de se mettre au pied et je lui mets l'harnais. Allez, entre, avance. Voilà, il entre tout seul. Il met la tête et l'harnais, je l'équipe sur son dos avec une partie métallique que je prends moi avec la main. Voilà, pour qu'il me guide. Je prends ma canne de signalisation. Ça, c'est juste une canne de signalisation pour montrer aux gens que. Parce que des fois, il ne percute pas directement, c'est un chien guide. Ça, c'est une petite canne que je porte à la main qui mesure à peine 60 cm. C'est juste, des fois, ça me permet aussi de détecter certains obstacles. Que, comme le chien, des fois, il s'arrête. Et pour moi, comme ça, je peux tendre la main et détecter des obstacles pour comprendre pourquoi le chien s'arrêtait.
Allez, au pied. C'est une télécommande comme ça? Quand j'appuie dessus, ça fait 10 minutes pour me dire que c'est bien appuyé. C'est cette télécommande qui déclenche les feux.
Route de l'érable Verdienne. Rouge Féco.
Quand c'est rouge, ils disent le nom des rues. Et quand c'est vert, ça fait un petit ting-ting. Tu vas l'entendre. Ça. Voilà ça. Doucement. Traverse. Dans les lignes. Allez, dans les lignes. Doucement. Remonte. Allez, remonte. Très bien. Allez, devant. Assis. Tu restes. Allez, va chercher. On fait des petits jeux d'obéissance comme ça. Back.
Tu le lâches.
Eh, c'est quoi ça? Tu lâches.
Je le laisse plus jouer avec Ta que moi je joue avec lui. Parce qu'ils doivent encore créer une bonne complicité ensemble. Sinon, lui, quand par exemple il est au travail, l'autre jour j'ai joué avec lui et du coup il se retournait vers moi pour entendre ma voix. Donc je préfère les laisser les deux jouer ensemble pour créer leur complicité.
Ça c'est non. Il y a beaucoup d'autonomie avec Oxford, je suis rassuré. Bien meilleur qu'avec la canne. Il y a aussi au niveau sociabilité, les gens viennent plus vers moi depuis que j'ai Oxford que quand j'avais la canne. Il y a plus de bonjour monsieur, comment allez-vous? Alors qu'avant, avec la canne, bah, il n'y avait rien de tout ça. Quoi. C'était plus le pauvre aveugle de loin. Quoi. Il y avait moins cet effet d'aller vers la personne. Je ne veux pas dire que je suis déçu, mais bon, on va dire que je suis plus heureux que les gens viennent vers moi.
Je ne sais pas si c'est un enrichissement ou pas, mais en tout cas, ça change le mode de vie. Ça change la perception de la vie, en tout cas. Je ne la vois plus comme je la voyais avant. Avant, je ne sais pas, pour moi, la vie, c'était une grosse rigolade. Des choses que je ne peux jamais faire. Bah, en fait, moi, j'ai une devise, je dis, on ne peut jamais dire jamais. Moi, le fait d'être aveugle, on va dire que c'est pas ce qui va me bloquer. Peut-être que je devrais me battre un peu plus qu'une personne lambda. Je foncerai tout le temps. L'être humain s'adapte, quoi.
C'était Aller de l'avant, toujours, en podcast Charlotte Muller, avec Taha Festali, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.